Et c'est parti pour le journal de Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, les lycées en manque de profs. 45% des établissements scolaires souffrent d'une pénurie d'enseignants en cette rentrée. Chiffre des syndicats, reportage à suivre. De l'argent frais pour les start-up françaises. 5 milliards d'euros pour en faire des licornes, ces champions technologiques mondiaux. Et puis dans le même temps hier, nouvelle défaite en revanche pour les 900 salariés de Ford Blancfort. La justice se déclare incompétente pour juger de la légalité du plan social. À suivre également, une Américaine sur 16 n'était pas consentante lors de son premier rapport sexuel. Rapport réalisé auprès de 13 000 femmes avant la vague MeToo. L'appel des associations pour que la France augmente sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida. Et puis pour terminer, la sortie au cinéma du dernier James Gray entre drame psychologique, oui, et science-fiction.
Et cinéma encore, au micro de Léa Salamé à 7h50, le comédien Guillaume Canet, le réalisateur Édouard Bergeon viendront nous parler de leur film Au nom de la Terre.
France Inter.
Et donc Sébastien, 15 jours après la rentrée scolaire, il manque encore des enseignants dans les établissements.
Près de la moitié des établissements français sont touchés en ce mois de septembre, des chiffres de sources syndicales non confirmés par le ministère de l'Éducation nationale. La situation est surtout inquiétante dans les lycées, car la réforme du bac est censée entrer en vigueur cette année dans les classes de première. Les précisions de Sonia Princé.
Dans 45% des établissements, il manquait des professeurs à la rentrée, selon une enquête du SNPDEN, syndicat des chefs d'établissement. C'est plus que les années précédentes, comme l'a constaté Florence Delannoy, proviseur d'un lycée rural au sud de Lille.
Il nous manquait un professeur de mathématiques. Nous avons obtenu un remplacement au bout d'une semaine, donc ça va. Mais il me manquait deux professeurs de physique. Et là, ça devient très compliqué. D'autant plus que j'avais une classe de seconde où malheureusement, le professeur de physique et le professeur de mathématiques manquaient.
Les disciplines scientifiques sont particulièrement concernées, ce qui inquiète beaucoup les parents d'élèves, surtout dans le contexte de la réforme du lycée où le contrôle continu compte pour 40% de la note finale du bac. Hubert Salin est porte-parole de la fédération PEP.
Avant, on nous disait dans l'établissement, oui, on commence l'année sans prof de physique, mais vous inquiétez pas, il sera là bientôt, les élèves rattraperont. Là, si les élèves ont leurs premières épreuves du tronc commun en février et qu'à la Toussaint, le professeur de français n'est pas encore là, ou que le professeur d'enseignement numérique n'est pas encore là, c'est comme si le jour des épreuves du bac, on dit à certains élèves, vous avez 2 heures pour faire le devoir et les autres, ils ont 4 heures. Il y a une question d'égalité des élèves là, à ce moment-là.
Dans certains collèges, l'an dernier, des modules d'enseignement ont été proposés par le CNED, enseignement à distance, pour des absences de courte durée. Mais la PEP rappelle que rien ne remplace un professeur dans la classe.
Sonia Princé, spécialiste éducation à France Inter.
Et Emmanuel Macron sonne la mobilisation, Sébastien, pour financer ce qu'on appelle la French Tech.
En clair, les start-up made in France, ces entreprises innovantes comme Blablacar ou Doctolib, des succès technologiques, mais à qui il manque souvent un levier financier suffisant pour dépasser les frontières hexagonales et pour concurrencer les poids lourds chinois et américains. Cela fait des mois que l'exécutif réfléchit à trouver de nouvelles sources de financement. Un rapport préconisait de flécher 20 milliards d'euros. Le résultat a été annoncé hier. Ce sera 5 milliards d'euros injectés dans les 3 prochaines années par les grands investisseurs institutionnels français, banquiers et assureurs. Annonce faite hier par le chef de l'État en personne, en mode VRP du Nouveau Monde, Manuel Ruffez.
Il faut aller plus vite, plus fort et plus haut, déclare Emmanuel Macron devant un public composé du gratin français du numérique. Notre pays est un pays d'inventeurs, d'innovateurs et de créateurs, se félicite-t-il. Il faut garder nos champions, question de souveraineté.
Si on ne construit pas les champions dans tous les nouveaux segments, dans le digital, dans l'IA, nous ne serons plus souverains, ni en termes d'emploi, ni en termes technologiques. Parce que ceux qui auront les solutions pour la médecine personnalisée de demain, pour l'intelligence artificielle d'après-demain, pour les nouvelles formes de mobilité, seront ou chinois ou américains. Je n'ai pas envie de ce monde.
Alors voilà, c'est 5 milliards d'euros. Une vingtaine d'investisseurs au total, privés majoritairement. Antoine Lisowski est le directeur général de CNP Assurance. Il abonde à hauteur de 700 millions d'euros, pas parce que c'est l'économie de demain, explique-t-il, mais bien celle d'aujourd'hui.
C'est déjà l'économie d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une économie de l'ancien, une économie du nouveau. Il y a un univers qui se renouvelle très très vite. C'est à la fois beaucoup plus utile et beaucoup plus agréable d'être au contact de cette économie qui est clos, en même temps qu'on est investisseur dans l'économie, je dirais, classique.
Emmanuel Macron fixe un objectif, il veut 25 licornes, ces entreprises de la tech valorisées plus d'un milliard d'euros d'ici 2025.
Emmanuel Ruffez, et pendant que le nouveau monde rêve de conquérir la planète, l'ancien monde, lui, n'en finit pas de disparaître. Nouveau revers hier pour l'usine Ford de Blanquefort. Depuis des mois, la CGT conteste devant la justice la légalité du plan social qui menace 872 salariés. Mais les magistrats se sont déclarés incompétents pour trancher ce litige. Décision de la cour d'appel de Bordeaux hier. La CGT toutefois a décidé de se pourvoir en cassation. Écoutez le désarroi de Philippe Poutou, délégué CGT à Ford.
On a vu le ministre Bruno Le Maire faire des déclarations en colère contre Ford. On a vu même Juppé se mettre en colère et se solidariser des actions syndicales. On a vu tous ces gens-là pendant quelques semaines critiquer, râler, y compris même dénoncer un capitalisme fou. Hein. C'est des mots qu'ils ont utilisés les uns et les autres. Et très rapidement, ils ont complètement déserté le dossier. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé seul à se battre. Le droit à l'emploi, on dit, c'est quelque chose qui existe, donc il faut bien le défendre. Et donc oui, de ce côté-là, ils n'ont pas du tout été à la hauteur. Mais à Ford, on pourrait après peut-être discuter de General Electric ou d'autres boîtes aussi, où malheureusement c'est un peu le même scénario qui se déroule. Quoi.
Philippe Poutou au micro de Stéphanie Scoc. Un salarié sur deux est épuisé par son travail. Ubérisation, digitalisation, fragmentation des tâches, les nouveaux modes d'organisation ont accéléré le rythme de travail dans les entreprises. 46% des salariés s'en plaignent. Résultat du 11e baromètre à publier aujourd'hui sur la santé au travail de Malakoff Médéric Humanis. Direction les États-Unis maintenant, avec un rapport inédit et inquiétant sur la sexualité des jeunes femmes. Une Américaine sur 16 n'était pas consentante lors de son premier rapport sexuel. Résultat d'une étude publiée dans la revue de l'Association américaine de médecine, elles ont souvent vécu cette première relation sous la contrainte. Les précisions à Washington de Gregory Phillips.
Les chercheurs ont épluché les statistiques du Centre de contrôle et de prévention des maladies qui, entre 2011 et 2017, a interrogé 13 000 Américaines âgées de 18 à 44 ans. Et ils ont donc appris que 6,5% de ces femmes n'étaient pas consentantes lors de leur premier rapport sexuel. Une majorité d'y avoir fait l'objet de pressions verbales. 46% des femmes interrogées déclarent avoir été maintenues contre leur gré. L'étude ne parle pas de viol, même si certaines situations décrites correspondent à cette définition pénale. Les chercheurs démontrent aussi que cette première expérience sexuelle contrainte peut entraîner des troubles psychologiques ou bien des problèmes gynécologiques plus fréquents. En extrapolant, l'étude estime que plus de 3 millions d'Américaines sont concernées, mais ce résultat n'est que la partie émergée de l'iceberg, disent les scientifiques, car l'enquête a été menée avant le mouvement MeToo, à une époque où les femmes parlaient moins facilement de violences sexuelles, et en omettant les générations précédentes, sans aucun doute, elles aussi confrontées à ce problème. Washington, Grégory Phillips, France 1.
En bref, encore à l'étranger, suspense total ce matin après les élections en Israël. Aucun parti n'est à cette heure en mesure de l'emporter. Ni le Likoud de Benjamin Netanyahou, ni le parti centriste de son rival Benny Gantz. Benny Gantz qui a appelé dans la nuit à un gouvernement d'union nationale. Fin de non-recevoir du Premier ministre Netanyahou. Suspense également en Arabie Saoudite qui doit révéler aujourd'hui de nouveaux éléments sur les attaques de ce week-end contre ses infrastructures pétrolières. C'est dans ce contexte que doit arriver aujourd'hui à Jeddah, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, afin d'évoquer une possible réponse des États-Unis à ces attaques.
Il est 7h39. Combien la France, Sébastien, va-t-elle donner cette année au Fonds mondial de lutte contre le sida?
Dit plus clairement, la France sera-t-elle enfin généreuse cette année? Cela fait près de 10 ans que Paris n'a pas augmenté sa participation à ce fonds chargé de lutter contre l'épidémie dans les pays les plus pauvres. Alors les associations ont décidé de s'adresser directement à la tête de l'État. Aide lance aujourd'hui une campagne pour inciter Emmanuel Macron à sortir le chéquier, Véronique Julia.
Créé il y a 17 ans, le Fonds mondial a permis d'immenses progrès. En 2002, les traitements ne profitaient qu'aux pays riches. Aujourd'hui, 61% des personnes séropositives dans le monde y ont accès. C'est mieux, mais le combat n'est pas gagné. 2 millions de contaminations encore chaque année. Sur 25% de la planète, l'épidémie redémarre. Ne pas relâcher l'effort, c'est donc le message des ONG. Elles estiment que pour bien faire, il faudrait que le fonds soit doté sur les 3 ans à venir d'au moins 14 milliards de dollars. Pour atteindre la somme, d'autres pays ont déjà promis un effort conséquent, plus 25% pour l'Allemagne, plus 15% pour le Canada, le Royaume-Uni ou l'Italie. La France n'a pas encore dit ce qu'elle allait faire. Responsable du plaidoyer pour l'association Aide, Enzo Poutronnier demande donc à l'Élysée d'augmenter sa part de 25%.
Le dernier qui a augmenté cette contribution, c'était Nicolas Sarkozy en 2010. Par rapport à l'Allemagne ou au Royaume-Uni, on est vraiment à la traîne. Le Royaume-Uni est devenu le deuxième contributeur mondial en augmentant sur les derniers cycles. On a un rang à reprendre historiquement. historiquement, la France a toujours été très présente dans cette lutte. C'est le moment de mettre la main au portefeuille.
La France consacre pour l'instant 360 millions d'euros par an au Fonds mondial. Une augmentation de 25% porterait sa contribution à 450 millions d'euros. En 2016, lors de la dernière conférence, la France avait été le seul pays du G7 à ne pas revoir les montants à la hausse.
C'est le 9 et 10 octobre prochain à Lyon que les pays donateurs se réuniront pour décider des montants alloués pour les trois années à venir.
Et on termine, Sébastien, avec l'une des sorties attendu de la semaine au cinéma, le dernier film de James Gray.
Ça s'appelle Ad Astra avec Brad Pitt dans le rôle principal. Le cinéaste new-yorkais s'aventure pour la première fois dans l'espace. Un film de science-fiction très personnel qu'a vu pour nous Eva Bétan.
Sur la Terre, comme aux confins de l'univers, les pères seraient-ils des ogres ? On reconnaît un grand cinéaste à ce qu'il plie un genre à ses cauchemars. Père et fils, le monde des hommes peuple la filmographie de James Gray. L'histoire se passe dans un futur proche. Le père était un héros de l'espace d'où il n'est pas revenu. Le fils, Brad Pitt, lui aussi astronaute, est envoyé des années après tenter de retrouver ce père qui peut-être aurait survécu. Père que James Gray charge d'un pouvoir quasi diabolique, rien moins que la survie de l'humanité. C'est un vieux petit garçon laissé derrière par un père qui avait pris la tangente qui embarque du bon usage de Brad Pitt par James Gray.
Il fallait que ce soit l'idéal de l'Américain mâle, charismatique, pour pouvoir subvertir cet idéal, pour dire non, il n'est pas si parfait. Être viril n'est pas la solution. Il faut parfois se montrer vulnérable. Il fallait un acteur mythique pour démolir le mythe.
Il y a quelques scènes d'action époustouflantes, originales aussi, et James Gray prend plaisir à tenter cette virtuosité-là. Mais on l'aura compris, Ad Astra n'est pas juste un pur divertissement, c'est une quête de fils, une quête de père que James Gray est lui-même devenu, une quête de cinéaste, une quête humaine, une belle quête terriblement humaine.
Ad Astra de James Gray, vu et approuvé par Eva Bétan, ça sort aujourd'hui dans toutes les bonnes salles.
Merci Sébastien Legénie.